France Inter, le 6-9 de l'été, Amélie Perrier.
Et c'est l'heure idéale pour un tour au jardin, surtout en compagnie d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Toujours au cinéma, merci à vous. Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Et votre main verte sur France Inter. Alors, vous avez envie ce matin de célébrer non pas Apollo 11, mais Apollo 14.
Eh oui, car j'ai découvert que l'un des astronautes de cette mission était un amoureux des arbres. Apollo 14 décolle le 31 janvier 1971 avec à son bord Alan Shepard, Edgar Mitchell et Stuart Rosa. Les deux premiers posent pied sur la Lune, le troisième reste à bord du vaisseau et c'est de lui dont il est question ce dimanche.
Alors Stuart Rosa, il est né le 16 août 1933.
Et adolescent, il s'engage à défendre les forêts contre les incendies. En 1951, il n'a que 17 ans, il est engagé pour l'été comme pompier dans un massif forestier de l'Idaho et ce travail lui plaît. Deux ans plus tard, il devient smoke jumper, à savoir pompier parachutiste. Lui et ses camarades sont envoyés par avion pour lutter au plus vite contre le feu, là où les moyens au sol peinent à progresser.
Ah oui, c'est impressionnant. Stuart Rosa intègre ensuite l'armée de l'air en 1954.
D'abord comme cadet, puis comme pilote d'essai 10 ans plus tard. En 1966, il est recruté par la NASA. Quand le directeur du service des forêts apprend que son ancien pompier va partir vers la Lune, il lui demande d'emporter avec lui des graines d'arbres pour étudier les effets des radiations et l'apesanteur sur les semences.
Et cette démarche est scientifique et rien n'est laissé au hasard, Alain.
500 graines sont sélectionnées par un spécialiste en génétique. Il a choisi des séquoias, l'équidambar, pin, platane et sapin, des arbres dont il connaît parfaitement l'historique. Bien évidemment, des graines prélevées sur les mêmes arbres sont restées à terre et seront semées à côté de celles envoyées dans l'espace pour que les résultats fassent l'objet d'une juste comparaison.
Et à leur retour sur Terre, il y a un problème.
Et il est de taille. Après avoir effectué 34 fois le tour de la Lune, la boîte qui est en cours de décontamination tombe sur le sol et laisse échapper les graines. Elle se mélange. Pire, les premiers semis sont des échecs, l'essai est terminé, les graines sont mortes.
Ah bah d'accord, intervient alors Stanley Krugman ?
Eh oui, c'est lui le docteur en biologie végétale qui avait sélectionné les graines et c'est lui-même qui veut vérifier maintenant la bonne, vivacité des graines. Elles lui sont alors envoyées et sans attendre, il les met en terre. Toutes les graines, ou presque, vont alors germer et devenir des arbres à tout point identiques aux autres.
Et depuis le temps, les arbres sont devenus grands.
Il est bien difficile de les localiser, mais il en a été retrouvé 89 aux États-Unis, des arbres que l'on appelle aujourd'hui des arbres de lune. L'un d'eux, un érable sycomore, fut transplanté au cimetière national d'Arlington en Virginie pour orner la tombe de Stuart Rosa. Il est mort le 12 décembre 1994. Il avait 61 ans, mais aujourd'hui, un arbre de lune, c'est joli comme image, eh bien, repose sur son corps.
Ah, c'est magnifique, c'est très poétique, comme vous, Alain Baraton. On passe aux questions des auditeurs, peut-être. Celle de Mathieu, d'abord.
Oh, pardonnez-moi. Oui. C'est que les voyages sur la Lune, les voyages dans l'espace, donnent aussi quantité d'expérimentations concernant le végétal. On le sait trop peu, mais des pieds de coton furent envoyés il n'y a pas très longtemps sur la Lune. Ils sont morts de froid, c'était prévisible. Mais les astronautes, les cosmonautes et les spationautes réfléchissent comment demain produire des végétaux dans l'espace. Un, bien sûr pour se nourrir, mais pourquoi pas pour fabriquer de l'air. Je vous rappelle que les plantes, entre autres, nous permettent de bien respirer.
Sur la Lune, pas
eh
mal.
Bien, oui.
Bon, parfait. On apprend plein de choses avec vous, Alain Baraton, le matin. Alors justement, c'est pour ça que Mathieu, il vous demande, mes clématites ont vilaine allure, les tiges sont sèches et toute la plante semble morte.
Azokitose, ah, c'est mauvais signe. Ah. C'est un champignon maladie dite cryptogamique qui adore malheureusement détruire les clématites. Elles deviennent comme molles et elles disparaissent complètement. Alors on est un petit peu désespéré, mais fort heureusement, la clématite qu'on avait achetée n'était pas très chère. On en rachète une et on la replante et elle remeurt.
Ah oui, d'accord. C'est le cycle de la vie.
Oui, tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas changé la terre où pousse la clématite, le champignon, lui, attend patiemment une autre clématite. Donc c'est un problème lié à l'excès d'humidité et de chaleur. Autant vous dire que c'est pas maintenant. Même en pot qu'il faut planter les clématites. Et si malheureusement, je suis pas très doué pour ces mots-là le matin.
Oh bah vous l'aviez bien fait la première fois.
L'azokitose, donc, se renouvelle. Bravo. Il faut bien changer la terre avant de replanter une clématite. C'est pas toujours simple, les mots latins, les mots botaniques.
Surtout à 7h46 quand même,
Alain
Baraton. Ouais, on est bien d'accord. Alors Emmanuel, elle vous dit, beaucoup de cerises sont tombées au sol avant maturité. Pourquoi?
C'est ce que l'on appelle l'éclaircissage physiologique. La plante, là, l'arbre produit des fleurs qui vont donner des fruits. J'en profite pour rappeler d'ailleurs que tous les produits obtenus à partir des fleurs sont des fruits. J'ai entendu que le thème de ce matin sur la, on va déguster, c'est la tomate.
Les tomates, oui,
la
avec
tomate
François-Régis
est donc un fruit. Le haricot vert est un fruit. La courgette est un fruit qui est obtenu par une fleur. Donc la plante met beaucoup d'énergie à produire des fleurs pour obtenir des fruits. Et les fleurs et les fruits épuisent le végétal. Et quand votre cerisier, il a trop de cerises et qu'il se dit qu'il ne pourra jamais aller à terme, eh bien que fait-il? Cet éclaircissage physiologique, à savoir, il se sépare d'une partie de sa récolte pour éviter que le trop-plein de cerises ne vienne affecter sa santé, tout simplement.
Laurine, elle s'inquiète puisque l'extrémité de ses plantes d'intérieur sèche. Que peut-elle faire, Alain?
C'est typique du problème de l'atmosphère des appartements. Les plantes d'intérieur que l'on appelle plantes vertes sont généralement originaires des régions tropicales, des sous-bois, de ces forêts luxuriantes. Elles vivent protégées du soleil, donc vous avez compris que votre plante verte ne doit pas être en plein soleil, mais dans une humidité énorme. Et chez vous, l'humidité, je présume, Amélie, je me trompe peut-être,
ouais,
que vous préférez avoir une peinture de qualité plutôt que de la moisissure partout.
Effectivement.
On est bien d'accord. Eh bien, le problème, c'est que les plantes, elles, ont besoin d'humidité.
Ouais, c'est trop sec.
Le petit pulvérisateur, n'hésitez pas, et vous verrez que cette extrémité des feuilles qui symbolise la sécheresse de l'appartement finira par s'estomper puis par disparaître.
Juste un petit coup de pulvérisateur sur
ça
les,
suffit largement. Sur les orchidées en ce moment, tous les jours, vous verrez comme elles sont belles l'an prochain.
Alors Julie, elle vous demande, Alain, pourquoi la terre d'un petit jardin est-elle couverte par des liserons?
La nature déteste le vide, et c'est une terre qui a été, j'en mettrai ma main à couper, enfin pas trop non plus, j'y tiens, je suis persuadé que c'est du lys, comment dire qu'il y a eu du désherbant chimique. Vous mettez du désherbant chimique, les plantes vont mourir, vous me suivez, c'est logique.
Ouais,
mais il y a toujours une plante qui reprend le dessus, et le liseron souvent reprend le dessus. Et quand le liseron n'a pas de concurrent, que fait-il? Il envahit le territoire. Et effectivement, quand un terrain est envahi et couvert uniquement de liserons, vous pouvez être sûr que Roundup et autres produits ont été déversés en trop grosse quantité les années précédentes. C'est pas non plus un cauchemar. Il faut simplement retourner la terre avec le liseron et en retirant les racines. Et puis, espérer que petit à petit, le produit disparaîtra.
Michel, enfin, elle vous demande, Alain, quel est le meilleur moment pour diviser un pied de rhubarbe?
Je vous la fais courte, ou pas, moyennement, moi. Je trouve
c'est
que
vrai,
la confine.
Oui,
les tartes,
la,
oui,
la
c'est
tarte
souvent filandreux.
La compote, non?
J'aime moyennement. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis incapable de cuisiner la rhubarbe. Je sais que la meilleure période pour la reproduire, à savoir, c'est la division de touffe. C'est au mois d'août, mais on peut également le faire en avril.
Vous avez un dernier petit coup de cœur, un livre.
Oh, oui, un bouquin drôlement intéressant à lire et puis à offrir. Ça s'appelle Voyage botanique et sentimental du côté de chez Proust. C'est Michel Damblant. Il connaît le sujet, il est jarné, qui a eu l'idée, de parler des végétaux que Proust évoque dans ses ouvrages. Merveilleux livre publié chez Géorama.
Merci beaucoup Alain Baraton, merci à votre main verte, c'est notre jardinier royal sur France Inter. Allez, à la semaine prochaine.